aussi.
Bien. Il est bon de te louer pour tout tes bienfaits, pour tout ce que tu fais en ce moment, en ce temps du soir où le sentier est difficile à percevoir. Tu nous as envoyé la lumière pour nous éclairer. Au milieu de cette iniquité où le mal est appelé bien et le bien appelé mal, les gens ne savent plus très bien où se mettre, mais ta parole de cet âge, elle nous met sur les rails. Et nous te remercions pour cela, comme David autrefois, qui disait que ta parole était une lampe à ses pas. Chaque pas que nous accomplissons, puisse-t-il être dans la bonne direction, toujours dans ce sentier que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Te remercions pour cette parole révélée et pour nous avoir donné cette oreille de disciple pour que nous puissions l'écouter de manière attentive, sans confusion, sans nous entremêler en des différentes doctrines, mais que nous puissions tout simplement suivre ta parole telle qu'elle est sortie de ta bouche. Et pour tous nos bien-aimés qui sont dans le besoin, puisse cette parole encore être prononcée de ta part, comme autrefois, alors que Daniel avait vu les promesses de son âge, il s'est mis à prier. Quand il avait commencé à prier, l'ange lui dit que la parole était sortie. Puisse-t-elle encore sortir pour nos malades, pour tous ceux qui non nécessiteux, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Que ta grâce soit sur nous. Nous ne méritons pas ce que nous te demandons, Seigneur. Mais nous comptons sur le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ta promesse qui nous déclare que tu es au milieu de nous si nous nous assemblons en ton nom, elle reste valable encore ce soir. Et nous ne sommes pas venus pour autre chose, si ce n'est pour savourer ta présence au milieu de nous. Nous t'ouvrons nos cœurs afin que tu nous parles. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Pardonne nos péchés, que nos cœurs soient nettoyés afin de recevoir cette bonne semence. Que les mauvaises herbes ne lui fassent pas compétition à ta parole. Qu'elle puisse vraiment trouver la place libre pour germer, croître et porter des fruits. Pardonne-nous nos péchés, ils sont nombreux. Nous comptons sur ta grâce pour cela, pour avancer. Inspire-nous encore au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Oui, on va passer à un petit sujet ce soir. Nous lirons dans Hébreux aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Un verset, le 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Parlons ce soir de cette première partie, la parole de Dieu est vivante. C'est le titre. Elle est vivante. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un texte que nous lisons de manière indifférente. Elle comporte de l'émotion. Elle apporte de l'émotion. Nous voyons dans Néhémie 8, rien que la lecture de la parole. Pour ceux qui aiment sa parole, ce n'est pas juste un ensemble de mots, c'est quelque chose de vivant, qui produit quelque chose de vivant. Comme un proche peut produire en vous, selon ce que vous l'aimez, ou parfois même si vous ne l'aimez pas, la personne ne vous laisse pas indifférent. Sa présence vous fait quelque chose, tout comme la parole de Dieu, elle fait quelque chose. Elle produit de l'émotion. Et un mort n'a pas d'émotion. Verset 9. Bien verset 8. Il disait, tous ces gens-là qui sont cités par là-devant, chacun restait à sa place, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Amen. Et que la parole peut produire. Il y a de la tendresse aussi dans la parole de Dieu. Dieu, courtisant son peuple, jusqu'à appeler Israël, à l'époque, sa fiancée. Israël a été infidèle. C'est pour cela que Dieu ne l'a pas épousé. Dieu s'est tourné vers une épouse des nations. Pour que vous soyez compté parmi les épouses aujourd'hui, Dieu vous a courtisé par sa parole. Il t'amène à ça. Vous avez entendu cette parole. C'est l'apôtre Jean qui dit, vous l'avez aimé sans l'avoir vu, rien qu'en entendant sa parole. Dans Jean 7, lorsque Jésus parlait et que les pharisiens avaient envoyé les huissiers pour aller le chercher, Manu Militari. Verset 40. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles, ils parlaient un peu plus haut, ils parlaient de quoi? Du Saint-Esprit. Et quand il leur parlait, il disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles, rien que ces paroles-là, où certains peuvent l'entendre et laisser passer par-dessus, mais ceux de la foule, quand ils ont entendu, ils ont tout simplement dit, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Jésus n'a rien fait d'autre que parler. Et les gens, la foule, le suivaient pour cela. Bien sûr, il arrivait que des miracles suivent, mais l'écouter était un plaisir. Parce que c'était une parole différente, parole de répétition, de credo, n'est-ce pas, que l'on récite sans trop savoir ce que l'on raconte, mais cette parole les concernait. Et aujourd'hui encore, selon nous en l'an 2025, la parole de Dieu nous concerne dans nos problèmes d'aujourd'hui. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs. Ils avaient été envoyés pour qu'ils l'amènent chez les principaux sacrificateurs, manu militari. Ben, les huissiers sont retournés les mains vides. Et les pharisiens leur dirent aux huissiers, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ce sont tout simplement des paroles de grâce où Dieu, il proclame son amour. Dieu proclame ses attributs. Guérisseur, sauveur, libérateur. Tout cela, Dieu le proclame à son peuple. Et il proclame d'une telle manière que ceux qui sont attentifs prennent ces paroles. Et ceux qui ont la foi acceptent la parole de Dieu plus fort que la parole du médecin. Lorsque le médecin leur dit son diagnostic sur leur cas, mais que la parole de Dieu dit autre chose, ceux qui ont la foi prennent ce que la parole de Dieu dit. Et ils louent Dieu pour cela. Ils glorifient Dieu pour cela. Dieu, Jésus-Christ dit à Jérusalem, il dit que quand il parle à son peuple, ça a l'effet de la poule qui assemble ses poussins. Vous avez déjà observé comment une poule assemble ses poussins, vous comprendrez ce que le Seigneur dit. Dans Matthieu 23, il pleure sur Jérusalem. Il voit les malheurs qui allaient arriver sur Jérusalem. J'ai reçu une question d'une de mes filles qui me pose des questions sur ce qui se passe en Israël. Vous savez, ce qui se passe en Israël, ce n'est pas Israël qui détruit, Ce sont les Palestiniens qui détruiront. C'est le problème au Moyen-Orient. C'est l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre. Et religieusement, nous on regarde ce que dit la Bible. La Bible ne demande pas à Netanyahou de bombarder. Dieu dit que lui-même, il s'en occupe. Il a dit, je les chasserai. Oui, mais Netanyahou, il bombarde. Il veut les chasser à sa manière et leur chercher un territoire ailleurs. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Tout ça, c'est de la politique. Nous ne faisons pas la politique. Nous, nous regardons à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est une parole de paix. Si le monde faisait ce que Dieu dit, le monde serait en paix. C'est cela le problème. Au verset 37 de Matthieu 23, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ?» Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Cette image, elle est jolie, cette image. Pour ceux qui ont déjà observé une poule rassembler ses enfants, c'est merveilleux. Et vous ne l'avez pas voulu. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est apportée, justement, à un monde qui se meurt. Justement pour lui apporter la vie à ce monde. Le monde est en train de se mourir. Je n'ai pas lu l'article, mais j'ai vu le titre d'un article sur Internet que voici la date où la Terre ne sera plus vivable. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais les scientifiques de la NASA ont trouvé une date à partir de laquelle il n'y aura plus de vie sur la Terre. Mais au commencement, il n'y avait pas de vie sur la Terre. Ce qui a apporté la vie sur la Terre, c'était la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Nous ne nous inquiétons pas, eux, ils s'inquiètent. La génération actuelle, comme les générations précédentes, elle se meurt. Elle est en train de mourir. Ou on arrive à la fin, comme le frère a prêché sur ce monde qui se désagrège. Et c'est vrai que ce monde s'éparpille. Des conflits partout. Des épidémies. Des catastrophes naturelles. Mais il y a une parole qui est là, qui apaise, qui nous parle au milieu de tous ces événements qui arrivent, sans jamais changer. Que la guerre éclate ou pas, la parole continue à nous parler de paix. Qu'il y ait la famine ou pas, continue à nous parler d'abondance. On parle d'épidémie ou pas, et continue à nous parler de guérison. Dieu ne change pas. C'est la même parole depuis le début jusqu'aujourd'hui. Et tout passera. Tout est en train de passer. Sauf la parole de Dieu. Elle vit. Nous, nous sommes des mortels. Mais la parole de Dieu est éternelle. Elle est destinée à une église vivante. la parole de Dieu. Pas une église morte. Amen. D'ailleurs, quand il parle au milieu des églises, pendant les âges de l'église, il parle au milieu d'elle, dans ce que le monde appelle aujourd'hui Apocalypse. Alors, Apocalypse, ça veut dire révélation. Mais eux, ils ont pris cela, vu tout ce que Jean a dit, donc ce qui est devenu apocalyptique maintenant, c'est dans le langage... dans le langage courant, c'est ce qui se passe, ce sont des catastrophes. Au verset 16, il avait donc c'est celui qui était semblable, qui ressemblait à un fils d'homme au milieu de sept chandeliers, qui est décrit ici. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, ce que nous venons de lire dans Hébreux 4, à deux tranchants, capable de séparer âme et esprit. C'est pour cela qu'il y a souvent des confusions. Est-ce que c'est l'âme qui est dans l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit qui est dans l'âme? L'âme et l'esprit sont intimement liés. Vous voyez? Parfois, c'est difficile d'en faire la distinction. Mais la parole de Dieu, elle peut la faire. Elle peut même les séparer. Oui. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est une parole vivante. Et vous êtes censé être vivant. On n'est pas dans un cimetière ici. Dans les églises formalistes, on exige le silence. Mais pour aller au temple, là où la parole est élue, David dit « Venez avec des cris de joie. » Amen. Tout ce qui est de la parole révélée de ce temps, de cet âge, les frères qui ne veulent plus lire que cela, que les brochures et qui ont mis la Bible de côté. Moi, je ne comprends pas comment on peut mettre la Bible de côté, mais enfin. Mais ceux qui mettent la Bible de côté ne veulent plus que le message. C'est difficile parfois d'entendre un message du début à la fin, tellement ça vous crie « Yes, Amen, Glory ». Oui, mais c'est bien de crier « Yes, Glory ». C'est vivant. C'est la parole de Dieu de notre âge. Mais quand vous prenez avec la Bible, vous crierez des yes, glory, amen. Mais vous pleurerez aussi d'émotion. Vous rirez aussi. Vous éclaterez de joie également. Elle vous consolera également, la parole. Les frères de Thessalonique étaient abattus en voyant toutes ces séparations qu'il subissait. Alors, l'apôtre vient et leur parle de l'enlèvement. Il leur dit, écoutez, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis, ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Dieu et avec lui ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons, comment ? D'après la parole du Seigneur. Il t'amène à ça. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça console. C'est vrai que nous avons difficile, mais il y a une parole qui console. Lorsqu'on peut penser que c'est terminé, la parole de Dieu vous dit, ce n'est pas terminé. Il y a une résurrection. En tant qu'Église vivante, on peut défier le diable. Rien qu'avec cette parole, en disant, il est aussi écrit. Abraham dit, vous pouvez ne pas avoir de don particulier. Vous pouvez être le plus petit des chrétiens. Mais néanmoins, vous pouvez vaincre le diable. Sans aucun miracle. Sans devoir lui dire, Satan, retourne dans la géhenne, rien qu'avec la parole appliquée correctement. Luc 4. Lui, ce qu'il fait pour vous désorienter, pour vous affliger, il va citer, il va enlever la parole de son contexte. Oui, je disais, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut négliger cette parole, cette Bible. Quand vous lisez votre brochure et votre Bible à côté, il y a des versets que le frère cite parfois de mémoire. Ce que j'aime bien, c'est retrouver ces versets-là et écrire dans la marge ce qui dit là, c'est tel verset. Et puis aller lire l'histoire tout entière dans son contexte. Et Dieu vous montrera beaucoup de choses. Luc, chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est important ça. Revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Oui. Jésus lui répondit, il est écrit, la parole. Oh, cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Cette parole a été écrite depuis Moïse. Mais, en ce temps-là, elle vivait toujours. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je peux vous dire ce soir, elle vit encore ce soir. Le diable n'a pas insisté sur cela. Il change d'endroit. L'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Poutine, le diable l'a élevé, il est tombé dans le piège. Il veut envahir le monde entier. À les 70 ans bien passés, il est plus proche de la fin, début. Quand bien même il conquérait le monde entier aujourd'hui, ça ne lui servira pas à grand-chose dans quelques années. Si le Seigneur tarde, et si le Seigneur vient, ben, dès le moment où le Seigneur est là, ça ne lui servira à plus rien du tout. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance. » et la gloire de ses royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Et Jésus ne commence pas à crier, arrière Satan. Jette-toi dans la géhenne. Non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Allez un peu sur le haut de la basilique de Kuckelberg et vous allez voir tout Bruxelles. Plaça sur le haut du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, maintenant, lui il utilise ça, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, n'est-ce pas, afin qu'il te garde. C'est le psaume 91. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable est vaincu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Tant que vous avez cette parole dans le cœur, c'est un moment défavorable pour le diable. Il faut qu'une situation particulière dans la vie vous sorte de là pour que le diable puisse revenir encore sur vous. Mais nous, nous allons toujours de l'avant dans la foi, croyant chaque parole de Dieu comme étant la vérité. La parole de Dieu est vivante parce que Dieu lui-même est vivant. Nous connaissons ces cris de l'Ancien Testament, l'Éternel est vivant. Effectivement, il est vivant. C'est la parole du Dieu vivant qui parle à un peuple vivant. Son peuple est un peuple vivant. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Marc 12. Dieu, verset 27. Prendre verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur parce qu'ils étaient en train de discuter sur la résurrection. Je vais vous avoir déjà raconté cette histoire, cette expérience que le frère a vécue. Un jour, il avait l'habitude d'aller dans la forêt. Il se retirait dans la forêt. Et allant dans la forêt, il a eu une vision. C'était en plein hiver. Et en hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles. Les arbres étaient complètement dénudés. Et le vent soufflait. Quand Jésus dit, le vent souffle là où il veut, il parle de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? L'Esprit vient, souffle, ces arbres restent immobiles. Et En regardant bien ces arbres, il a cru voir en fait des stèles tombales. Comme des tombes sous ce vent. Et il ne comprenait pas pourquoi il a eu cette vision. Le vent avait beau souffler, tout était immobile. Dieu lui a révélé le songe. C'est quoi? Ce sont ces églises où les membres sont quasi morts spirituellement. La parole n'a plus d'effet sur eux. Parce que quand David entendait la parole de Dieu, quand il voyait la parole de Dieu prendre sa place de repos, David ne tenait pas en place. Et nous avons vu une fois, un frère du Zimbabwe était venu prêcher ici. Ce jour-là, on était un peu tous fatigués. C'était un moment, il a dû s'arrêter. Il a dit, suis-je dans un cimetière ou dans une église? Le frère n'était pas habitué à prêcher dans une assemblée aussi calme. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle ne peut pas vous laisser indifférent. Vous devez avoir une réaction à cela. Sinon, à quoi ça servirait de venir ici? Et Pierre dit, effectivement, l'Église, c'est une Église vivante. Elle est composée non pas de pierres inertes, mais de pierres vivantes. Amen. Ça veut dire des pierres qui parlent, des pierres qui crient, qui pleurent. Ça caractérise un vivant. 1 Pierre chapitre 2. Verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous avez goûté qu'il est bon, maintenant il dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante, lui-même, il est vivant. Amen. C'est la pierre rejetée, mais elle est vivante cette pierre. Elle vit. Je sais qu'il vit. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens tout autour de moi, dit le cantique. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, c'est-à-dire nous, comme des pierres vivantes, dites amen à ça, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pas une maison où ça sonne creux, non. Une maison où les cris de joie retentissent, où les cris d'émotion retentissent. Si vous êtes triste, votre tristesse peut retentir. C'est pas, Dieu vous consolera. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en esclavage, la servitude, l'amertume que leur causait Pharaon, ça leur faisait sortir des cris, hein. Des cris d'amertume. Dieu a entendu ça. Mais si c'était un peuple amorphe, Pharaon aurait continué à marcher sur eux. Eh bien, Dieu les aurait toujours regardés. Non, ils ont crié. Si vous souffrez, criez. Dieu vous entendra. Soyez vivants. Un mort, il ne souffre plus. Former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Dieu, on l'a lu il n'y a pas longtemps, il est adoré, il est loué par des vivants. Ceux qui sont dans le séjour des morts, ils ne le louent pas. Ésaïe 38. Ceux qui ne connaissent pas le passage, mais ils connaissent le verset. Ils savent qu'il existe. Oui, il parle des souffrances. Verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles, tes bontés, que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Amen. Il souffre. Il était malade. Et le prophète est venu lui dire, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. C'était une maladie qui le faisait souffrir. Et tu ne vivras plus. Ça, c'est le verset premier. Et il reconnaît qu'il souffre. Il dit, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espère plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Il souffrait, hein? Il souffrait, il le reconnaît. L'Éternel m'a sauvé. Il dit, je ne vais pas rester silencieux. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. C'est une maison où il y a de la joie. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues, qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. C'est après avoir chanté tout cela, après avoir prié tout cela, après avoir dit tout ça, que la guérison va arriver. Ouais. Et Dieu est fidèle. Et nous le croyons. Il n'est pas un homme pour mentir. Moi, je peux promettre des choses que je ne pourrais pas accomplir. Mais Dieu, ce qu'il promet, il sait qu'il est plus que capable de l'accomplir. Les maladies affluent, elles deviennent de plus en plus graves. Nos situations deviennent de plus en plus compliquées. Mais Dieu dit, il ne nous laisse pas orphelins. Dieu dit qu'il est toujours Jéhovah Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies. Hier, on parlait de cette dame qui était aveugle, qui chantait, la sœur Cosby, j'oublie son prénom. Elle est morte aveugle. Mais elle a composé un cantique, elle a dit, quand je serai là-bas, je sais où placer mes doigts. Sur ses blessures qu'il a subies. Elle a vu ça à sa manière. Elle était certaine de ce qu'elle disait. La parole de Dieu elle est formidable. Vous pouvez avoir pitié de quelqu'un car la parole de Dieu, Paul était là, lié devant le gouverneur. L'autre lui dit, oh, pauvre de toi, Paul, ton grand savoir, il te fait déraisonner. Paul dit, oh, j'aimerais bien que tu sois à ma place, à l'exception de mes liens. Ce qu'il voyait, le gouverneur ne voyait pas. Paul, il vous parle de la résurrection en étant certain. Il dit, cet évangile, je l'ai reçu de Dieu. Il était sûr de lui. Il était sûr du chemin de Damas. C'est lui qui est tombé du cheval. Il a senti la chute. Non seulement cela, il a entendu la voix. Non seulement ça, deux témoins, il a vu la lumière. On prend la chute, ça fait même trois témoins. Il est le vivant. Et si l'Église est morte, si les membres sont morts, il ne peut pas être au milieu d'eux. Parce qu'il n'est jamais au milieu des morts. L'ange dit aux femmes, le jour de la résurrection, dit, mais ne le cherchez pas ici. Ce n'est pas son lieu de prédilection. Ce n'est pas ici. Luc, chapitre 24. Et Jésus-Christ, il est la parole, n'est-ce pas? Il est vivant. Ça sert à rien d'aller prêcher, d'aller mettre des églises au cimetière. Ces femmes, si elles représentent des églises, qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas? On va aller ressusciter, on va l'embaumer. Non, nous, on n'a pas besoin d'un Dieu qu'on embaume. On a besoin d'un Dieu vivant. Verset 6, quand Pilate, parce que moi, je suis au chapitre 23. Verset 4, comme elle ne savait que penser, la pierre était roulée de cela. Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, les anges, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ce n'est pas sa place. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Il est vivant. Et il dit à Jean, il confirme à Jean, il dit, j'étais mort, c'est vrai. J'étais mort. Mais je suis vivant. Pour combien de temps? Au siècle des siècles. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La parole de Dieu est valable tout au long, depuis Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse 22, dernier verset. Que Dieu nous donne la foi. En ce jour, aujourd'hui, 14 mai, 2025. Cette parole est toujours valable. Pour les coups que nous avons vécus, que nous avons dû subir dans notre vie, cette parole nous console. Cette parole nous donne de l'assurance. Cette parole nous fortifie. Si nous avons tendance à nous décourager, cherchez exhortation ici. Ne cherchez pas un encouragement dans l'alcool ou dans la drogue, cherchez votre encouragement ici et croyez-la. Si vous y croyez, sachez que vos souffrances seront petites. Elles existeront toujours. Elles seront toujours là. Mais croyez-y. Il guérit toujours aujourd'hui. Que vous le croyez. Il sauve toujours aujourd'hui. Il délivre toujours aujourd'hui. Non seulement cela, il est au milieu de vous. Cette volonté à vouloir le louer, ça vous montre qu'il est vivant. Cette parole est merveilleuse. Elle vous parle dans votre cœur. Je ne sais pas si je vais trouver. C'est dans Osée, mais où il dit ceci. Il dit, je l'attirerai mon peuple dans le désert afin de lui parler dans le cœur. Et dans le désert, il y a toutes sortes d'ennemis que nous rencontrons. Il y a toutes sortes de problèmes par lesquels nous passons. Mais c'est dans ce désert, c'est au milieu de ces problèmes que Dieu nous parle. Et il nous parle justement, pendant qu'il nous parle ainsi, malgré les souffrances, il nous parle tellement bien que nous l'aimons. Sans l'avoir vu, nous l'aimons. Oui. Et c'est bien ainsi. C'est parce que Dieu sait parler. C'est dans Osée, chapitre 2. On va terminer. Il y a un châtiment qui prononce d'abord au verset 4, du verset 4 au verset 15. Alors, on va prendre verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Le désert, c'est un lieu d'épreuve. Et c'est dans ces épreuves qu'il va vous parler, et je parlerai à son cœur. Et il sait tellement bien parler à quelqu'un qui est dans l'épreuve que la personne finit par l'aimer. Dieu vous bénisse. C'est une parole vivante. Casse. Titre les paroles vivantes. Prions le Seigneur. Seigneur, veuille dans ta bonté parler à notre cœur ce soir. Certains passent par des sombres vallées. Certains passent par des souffrances, des douleurs intenses. Tel point, comme Israël autrefois en est arrivé à l'amertume. Oh Dieu, sois miséricordieux. Je te demande, au milieu de cette amertume, tu parles dans leur cœur et qu'ils puissent pousser des cris dans ta direction. Et toi, qui es riche en miséricorde, tu entendras leurs cris. Tu entendras leurs gémissements. Tu verras leur souffrance et tu leur parleras au cœur. Tu parleras à Pharaon qui refuse de les libérer. Les libérer pour qu'ils te servent. Ils ont cette envie, ce désir de te servir, de t'adorer, de te louer, de rendre gloire. Pharaon refuse de les laisser partir. Que ta main s'appesantisse sur Pharaon. Que nous puissions parler, que nous ne crions plus, alors que nous sommes là, au bord de la mer, nous ne voulons plus pousser des cris, nous voulons parler selon ta parole. Mets ta parole dans nos bouches. Que nous parlions à ces maladies, comme avec ce centenier qui disait, j'ai des hommes sous mes ordres. Si tu parles, mon serviteur sera guéri. Ici, il ne s'agit peut-être pas du serviteur, parfois il s'agit de nous-mêmes. Il s'agit d'un de nos proches qui a besoin de guérison. Si tu parles, ta situation sera rétablie. Ne refuse pas. Mais quoi qu'il en soit, ô Dieu, nous t'aimerons toujours, car tu as parlé à nos cœurs. Nos cœurs ont réalisé tes merveilles et les bonnes choses que tu as mises en réserve pour nous. Salut merveilleux que tu nous donnes. T'en sommes reconnaissants. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Accompagne-nous dans nos vies, dans nos maisons, là où nous allons. Que tu nous protèges sur le chemin de tout incident, de tout accident, de toute forme de contrariété. Au moment de nous coucher, nous puissions encore te dire merci pour la journée qui est en train de se terminer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Dieu vous bénisse.